Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 20 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le Burkina Faso, désormais entièrement déconseillé, sauf raison impérative, par le ministère français des Affaires étrangères.
Au Mali, le bilan de l'attaque de djihadistes lundi dans le secteur de Tambacor, à la frontière nigérienne, est maintenant de 30 soldats tués.
Appel des États-Unis pour un vrai dialogue et un transfert du pouvoir vers les régions anglophones du Cameroun.
En République démocratique du Congo, le milicien Frédéric Massoudi Alimassi dit Coco, condamné à perpétuité pour de nombreux viols et meurtres dans l'est du pays.
Israël a revendiqué ce matin des frappes aériennes en Syrie contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes Al-Quds.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Burkina Faso est désormais entièrement déconseillé, sauf raison impérative, ou formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères. Ce pays, jadis prisé par les touristes, subit depuis 2015 des attaques djihadistes récurrentes. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Quai d'Orsay a actualisé sa carte de conseil aux Français qui veulent se rendre au Burkina. La zone rouge formellement déconseillée a été étendue à tout le nord, l'est et les frontières ouest. Le reste du pays est une zone rouge, c'est-à-dire déconseillée sauf raison impérative. Jusqu'à récemment, le centre du Burkina et la capitale Ouagadougou étaient en jaune qui appelait à la vigilance renforcée. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes ont fait près de 700 morts depuis début 2015 et quelques 500 000 déplacés internes et réfugiés. La détérioration sécuritaire au Sahel est très préoccupante. L'épicentre de l'insécurité était auparavant au Mali. Aujourd'hui, le Burkina Faso est au cœur du conflit, a estimé hier Patrick Youssef, directeur adjoint du CICR pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse au Forum de Dakar sur les questions de sécurité.
Au Mali, 30 soldats des FAMA ont été tués lundi dans une attaque des djihadistes dans l'est du pays, à proximité de la frontière nigérienne, a dit une source sécuritaire. L'armée avait jusqu'ici fait état d'un bilan de 24 militaires tués. 30 corps de soldats tombés au cours d'une mission dans le secteur de Tambacor, région de Menaka, sont arrivés à Gao dans le nord, en provenance de Niamey au Niger, mardi à la mi-journée, a précisé cette même source. Selon elle, les recherches de soldats dispersés lors de l'attaque se poursuivent.
Les États-Unis ont appelé hier à un vrai dialogue et à un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'administration américaine estime que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement de Yaoundé ne fait que renforcer les séparatistes. Les précisions de Jacques Aristide.
Lors d'une audition parlementaire à Washington hier, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nage, a déclaré que les conseillers du président camerounais, Paul Biya, lui faisaient miroiter une victoire militaire. Pour le diplomate américain, la vérité c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire, dit-il, au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée. Chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution, a-t-il déploré. Tibor Nage a également relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre par Yaoundé pour tenter de résoudre la crise marquée par le boycott des principaux groupes indépendantistes. Il doit y avoir un vrai dialogue et il doit y avoir un transfert de pouvoir vers ces régions. Il faut quelque chose qui ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans le camp des modérés, plaide-t-il. Le conflit anglophone dans ce pays majoritairement francophone a fait plus de 3000 victimes en 2 ans.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un milicien a été condamné hier à la perpétuité pour de nombreux viols et meurtres en 2018. La fondation Panzi du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, était partie civile à ce procès. Le point avec Eddie Isango.
Frédéric Massoudi Alimassi, dit Coco di Coco, a été reconnu coupable des crimes contre l'humanité par viol, empoisonnement, torture, meurtre, esclavage sexuel, disparition forcée, a indiqué le président d'un tribunal militaire à Bukavu. Il est le chef des Mai Mai Raia Mutomboki, l'une des dizaines de milices armées qui terrorisent les civils dans les deux Kivu depuis 25 ans. Deux autres miliciens ont été condamnés à 15 et 20 ans de prison. Deux prévenus ont été acquittés. Nous irons en appel à la Cour militaire du Sud Kivu, a déclaré l'une des avocates des prévenus, Maître Esther Bachougui. Dans la nuit du 8 au 9 février 2018, Massoudi Alimassi et ses miliciens ont fait irruption dans les villages de Kabikokole, dans les territoires de Shabunda. Ils ont pris en otage plus d'une centaine de femmes pour les violer l'une après l'autre, affirme la fondation Panzi du docteur Mukwege. Le procès a été ouvert le 12 septembre, moins de deux ans après les fêtes, dans une région où de nombreuses ONG locales et étrangères tentent de lutter contre l'impunité.
En Algérie, de nouveaux rassemblements hostiles à la présidentielle du 12 décembre ont émaillé hier le troisième jour d'une campagne agitée, notamment là où les candidats ont tenu meeting. Des dizaines de personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements, a indiqué à l'AFP Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, citant un réseau de militants de la société civile à travers le pays. Dans plusieurs localités, des manifestants ont également muré mardi les locaux de l'autorité nationale indépendante des élections, chargée d'organiser le scrutin, selon M. Sali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Poursuite à Washington de l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Hier, deux experts de la sécurité nationale ont dit aux enquêteurs de la Chambre des représentants avoir été préoccupés par l'appel du président américain lors de sa conversation téléphonique du 25 juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour que ce dernier ouvre une enquête sur un possible rival en 2020, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden et son fils Hunter.
Le lieutenant-colonel Alexander Vindman a qualifié cet appel d'inapproprié et Jennifer Williams, une conseillère du vice-président Mike Pence, qui a écouté elle aussi cette conversation, l'a qualifié d'inhabituelle parce qu'impliquant une question de politique intérieure. Les enquêteurs doivent entendre aujourd'hui l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, qui s'est révélé être un acteur clé de cette affaire ukrainienne.
Et puis l'ONU a tiré la sonnette d'alarme hier après 4 jours de troubles en Iran, disant craindre que des dizaines de personnes aient été tuées lors de manifestations contre une hausse du prix de l'essence. Le point, Michel Joseph.
Nous sommes particulièrement alarmés par le fait que l'utilisation de munitions réelles aurait causé un nombre important de décès, a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Des dizaines de personnes pourraient avoir été tuées, a-t-il ajouté, parlant également de plus de 1000 arrestations. Amnesty International a avancé que le bilan se situe entre 100 et 200 morts, dénonçant un recours à la force létale contre des rassemblements qualifiés de largement pacifiques. L'Iran est pratiquement coupé du monde depuis samedi soir. Le gouvernement de Téhéran a averti qu'Internet ne sera rétabli qu'avec le retour à un calme durable. Vendredi, peu après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence, des dizaines de villes iraniennes ont été secouées par de violentes manifestations. Les autorités ont accusé les États-Unis de fomenter les émeutes. Le secrétaire américain Mike Pompeo et la Maison-Blanche ont apporté leur soutien aux manifestants.
L'armée israélienne a revendiqué tôt ce matin une série de frappes aériennes de grande ampleur contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes Al-Quds en Syrie, pays allié de l'Iran, ennemi d'Israël. C'est en réponse, dit-elle, à des tirs de roquettes la veille depuis le sol syrien. Mardi, le système de défense antimissile israélien avait intercepté 4 roquettes tirées en direction du nord d'Israël, selon l'armée, alors que l'Observatoire syrien des droits de l'homme faisait état de premières frappes israéliennes de représailles mardi en journée.
Le Sénat américain a adopté hier à l'unanimité un texte soutenant les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong face à Pékin. Il a menacé de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique. Les sénateurs ont également approuvé une mesure qui interdirait la vente à la police de Hong Kong de gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et autres équipements destinés à réprimer les manifestations. La Chine a réagi avec colère à l'adoption de ce texte, avertissant qu'elle prendrait des mesures de représailles s'il devait être adopté définitivement.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Les achats de thé kényan par l'Irlande ont bondi de 50% sur les 9 premiers mois de l'année en cours. Ils ont atteint 3100 tonnes alors qu'ils étaient de 2000 tonnes à la même période de l'année dernière, rapporte Business Daily Africa. Cette forte croissance pourrait s'expliquer par le Brexit qui incite les importateurs à procéder à des achats directs plutôt qu'à s'approvisionner sur le marché diplomatique, d'après Edouard Moudibo, directeur général de l'Association du commerce du thé d'Afrique de l'Est. La société d'exploration minière Pensana Metals a besoin d'un capital initial de 131 millions de dollars pour développer son projet de terre rare de Longojo en Angola, écrit l'agence Ecofin. La mine à ciel ouvert traitera annuellement 2 millions de tonnes de minerais et produira une moyenne de concentré de 60 000 tonnes par an. La mine a une durée de vie de 9 ans et générera annuellement un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 146 millions de dollars en moyenne. Pour terminer, au Sénégal, la société publique du pétrole Petrosen annonce que 10 blocs maritimes d'exploration pétrolière seront ouverts au marché à partir de janvier 2020. Le processus, qui durera 6 mois, sera appuyé par la compagnie de géophysique TGS, qui dispose d'une vaste gamme de données sur l'ensemble des superficies concernées, y compris des données sismiques 2D, 3D, multifaisceaux et d'échantillonnage du fond marin. TGS acquiert actuellement de nouvelles données pour permettre aux compagnies intéressées d'avoir des informations complètes sur les blocs avant de soumissionner.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin hier de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.
Oui, défaite surprise des éléphants de Côte d'Ivoire en Éthiopie 2-1. Les Ivoiriens avaient pourtant réussi à ouvrir la marque dès la quatrième minute avec Serge Aurier, avant de se faire rattraper par les Éthiopiens avec un but de Soufarel Dagne Thiou. Kémilis Bekele a ensuite signé le but de la victoire. Le Maroc, lui, s'est repris après avoir été tenu en échec à domicile par les Mourabitounes de la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas ont rectifié le tir à Bujumbura, battant les Hirondelles 3-0 avec des buts signés Nusayir Mesraoui, Youssef N. Nesri et Ashraf Hakimi. 2-0 pour la Mauritanie qui recevait la Centrafrique, 6-2 pour Madagascar en déplacement au Niger, 2-1 pour le Zimbabwe devant la Zambie. Les matchs de la troisième journée se joueront en mars 2020.
L'Étoile du Sahel recrute Carlos Garrido.
L'Espagnol, ancien coach de Villarreal et du Betis Séville, a été nommé entraîneur de l'Étoile sportive du Sahel en pleine phase de groupe de la Ligue des champions. Le club de Sousse, éliminé de la Coupe arabe des clubs, avait initialement annoncé le mois dernier le recrutement du français Albert Cartier en remplacement du technicien tunisien Fawzi Benzarti. Finalement, c'est Juan Carlos Garrido qui a signé avec l'Étoile sportive du Sahel après avoir entraîné le Raja Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis rejoint le El Ain FC d'Abu Dhabi. L'Étoile du Sahel est actuellement 7e du championnat tunisien et doit rencontrer le 29 novembre le club égyptien d'Al Ahly en Ligue des champions.
Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Tottenham.
Oui, le technicien argentin paye le mauvais début de saison des Spurs. Après 12 journées, Tottenham est 14e de la Premier League avec 3 victoires, 5 nuls et 4 revers au compteur. Les Spurs pointent déjà à 20 longueurs du leader Liverpool. En Ligue des champions, Tottenham est 2e de son groupe à 5 points du Bayern, qui était d'ailleurs venu infliger une correction aux Londoniens lors de la deuxième journée 2-7.
Luis Enrique redevient sélectionneur de l'Espagne.
Oui, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui avait quitté son poste en juin en raison de la maladie d'une de ses filles, revient sur le banc espagnol en remplacement de son ancien adjoint Roberto Moreno. Luis Enrique reprend les commandes ainsi après plusieurs mois passés en famille auprès de sa fille Zana, décédée fin août à 9 ans. Il conduira donc l'Espagne à l'Euro 2020, compétition pour laquelle Moreno a assuré la qualification. Avec ce retour de Luis Enrique, c'est déjà le cinquième mandat pour quatre sélectionneurs en Espagne depuis le départ à l'été 2016 de Vicente del Bosque, sacré champion du monde en 2010. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Golden State bat Memphis 114-95, la Nouvelle-Orléans et Portland 115-104, Phoenix battu par Sacramento 120-116 et rendez-vous à 7h temps universel pour le résultat du match Oklahoma City et les Lakers.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Revenons sur les relations militaires entre la France et le Burkina Faso. Avec son armée incapable de faire face aux groupes djihadistes, le Burkina Faso fait régulièrement appel au soutien militaire français. Les deux armées viennent d'ailleurs de finir une opération militaire d'envergure dénommée Bourgou 4. Mais voilà que la semaine dernière, l'état-major de l'armée burkinabé a demandé à la France et aux autres pays intervenant au Burkina de l'informer désormais de tout déplacement d'aéronefs, faute de quoi ceux-ci seraient considérés comme ennemis. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, Dieudonné Zungrana.
Le 15 novembre courant, le Burkina a adressé une correspondance à l'attaché militaire de l'ambassade de France pour un peu se plaindre, entre guillemets, du survol du territoire par des aéronefs français.
Alors, au même moment qu'on publiait cette note, les troupes du Burkina Faso et aussi de la France étaient ensemble sur le terrain lors d'une opération. Pourquoi ils n'ont pas discuté en face à face de ces questions-là?
En réalité, cette correspondance est sur les réseaux sociaux que les gens ont pris connaissance de cette initiative-là. Maintenant, par rapport à l'opération dont vous faites face, c'est l'opération Bourgou 4, qui est une opération conjointe justement entre Barkhane et puis les militaires burkinabés. Et lors de cette opération qui a été débuté du 7 novembre jusqu'au 17, je crois, on a pu neutraliser 24 terroristes, saisir 64 véhicules, une centaine de téléphones et des munitions. Maintenant, pourquoi lors de cette opération, ils n'en ont pas parlé? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais toujours est-il que les autorités exigent désormais de la France que, avant tout survol du territoire, qu'il y ait une information 48 heures avant, qu'ils donnent le plan de vol avant que des aéronefs puissent survoler le territoire burkinabé.
Est-ce qu'il faut craindre que cette dernière sortie-là puisse fragiliser davantage les relations entre la France et le Burkina et d'une façon générale le Sahel?
C'est vrai que, bon, il y a des petits couacs, mais je crois qu'au sommet de l'État, ils arrivent à colmater ça. Ce qu'on demande en tout cas aujourd'hui, c'est que quand même, malgré cette présence française qui s'est pas seulement la France, il y a d'autres nationalités. Les Sahéliens ne comprennent pas qu'avec les drones, les blindés, cette orgie de moyens-là, malgré ça, les terroristes semblent avoir une longueur d'avance sur les Sahéliens. Ça, c'est vraiment incompréhensible. On parle même un petit peu de mystère.
Mais est-ce que cette situation, finalement, n'est pas comparable à l'Afghanistan où on a les États-Unis et aussi tous les pays de l'OTAN qui n'arrivent pas à s'en sortir depuis près de 20 ans?
Bon. Comparaison n'est pas raison, mais de plus en plus, et moi, c'est ma position en tant que journaliste, je l'ai dit il y a 6 ou 7 mois, j'ai dit que le tout guerre ne peut pas vaincre en tout cas cette guerre asymétrique-là. Il faut une diplomatie souterraine, et vous voyez justement, vous avez fait ça, c'est lointaine plaine talibane où les Américains commencent à négocier avec les talibans. Les Américains négocient désormais avec les talibans. Donc ici aussi, il faut la guerre, mais il faut que de plus en plus, qu'il faut faire la guerre, mais il faut prendre l'âme avec ceux qui nous attaquent pour essayer un peu de calmer les choses.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
À quelques jours de la présidentielle du 24 novembre, la Guinée-Bissau vit au rythme de cette élection, alors que la population est incitée à voter par les différents partis. Dans les taxis, moyens de transport privilégiés, les Bissau-Guinéens discutent politique. Reportage de notre correspondante Nari Kaling Lopi.
Zé, 25 ans, est chauffeur de taxi dans la capitale de Guinée-Bissau, le transport privilégié des citadins. Au rouge et à allure encore juvénile, Fatou Camara étudie à l'université Augustine Onetou. Pour elle, la priorité, c'est l'éducation.
Je voudrais que le futur président résolve la crise et améliore nos conditions d'études et aussi l'hôpital. Nos frères et sœurs ont fait des études, ont été formés, mais ne trouvent pas de travail.
À Bissau, on partage son taxi avec les autres clients. Fatou continue sa route avec ses coups d'enfa. Le quadragénaire s'engouffre dans la voiture. Fin d'une journée de travail et chemise toujours impeccable. La présidentielle, lui aussi, y pense.
Il y a beaucoup de problèmes. La population est fatiguée. Je voudrais que le futur président améliore la santé, l'éducation et l'accès à l'eau courante. Il n'y a pas d'électricité, pas d'école, rien en Guinée-Bissau.
Le chauffeur de taxi poursuit sa route. À bord de sa voiture blanche et bleue, lui aussi pointe du doigt le manque d'infrastructures.
S'il y avait beaucoup de routes goudronnées, les gens ne seraient pas obligés d'emprunter tous la même voie. Cette voie, c'est celle passant par le marché de Bandé en plein cœur de Bissau.
Zé prend un nouveau client. Sankou Baldé rentre chez lui, il est commerçant.
Vous savez, la Guinée-Bissau a de nombreuses richesses comme les noix de cajou, les mangues, les agrumes, mais on manque de formation. Rien n'est fait pour transformer nos produits bruts.
Pour Sankou Baldé, l'évolution de la Guinée-Bissau passera forcément par l'éducation de la jeunesse. Et les 12 candidats à la présidentielle du 24 novembre prochain l'ont bien compris. Tous en ont fait un thème de campagne. Tariq Aline Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la longévité au pouvoir en Afrique. Le président Paul Biya vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun, alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir de certains dirigeants? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Sénégal, à l'instar de leurs homologues des autres pays, les nutritionnistes suggèrent de manger sain et équilibré pour préserver la santé. Mais dans la capitale, Dakar, nombreuses sont les personnes qui font fi de ces recommandations en consommant des aliments de qualité médiocre, souvent appelés « malbouffe ». Pour la plupart, cette question sanitaire est reléguée au second plan pour diverses raisons. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Obésité, insuffisance cardiaque, hypertension, diabète et même cancer, la malbouffe est accusée aujourd'hui de nombreux maux. Des scientifiques affirment même qu'elle peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Cependant, beaucoup de consommateurs comme Jean Diouf estiment que c'est un mal nécessaire.
Ici au Sénégal, quand tu prends quelqu'un, tu lui dis qu'il faut manger équilibré alors qu'on a nos habitudes là. Ça, c'est vraiment... ça va faire tache d'huile, quoi. Parce qu'on a un problème de temps et on ne peut pas rester à chaque fois à la maison préparer les repas. On est obligé, vu qu'on a une contrainte de temps, de venir ici prendre les repas.
Fort de la confiance des consommateurs, les gérants de fast-food proposent des produits peu communs et pas toujours sains, mais très prisés. Mamoudou Diallo est propriétaire de fast-food.
Ça fait 15 ans que je vends du fast-food local. Il y a des gens qui viennent, qui te demandent des fatahs non complets à 300 francs. Si c'est complet, c'est 500 francs. Mais si tu as besoin de hamburgers, les fataya, les omelettes et les borsetti sandwich. Voilà, il y a des sandwichs foie, 600, sandwich yap, 600. Il y a sawarama. Sawarama, on le vend à 1000 francs.
Malbouffe est un terme péjoratif, mais il définit bien la nourriture à qualité médiocre consommée à travers le monde. Des aliments riches en calories, mais dépourvus de protéines et de vitamines, comme l'indique le docteur Aliou Mohamed Diallo. Des aliments sans qualité nutritionnelle nutritif est dangereux pour la santé.
La consommation au long cours, effectivement, est à l'origine de maladies que nous voyons de plus en plus, des maladies d'ordre métabolique, mais également des maladies cardiovasculaires, comme le diabète, l'obésité, le surpoids, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, qui est même quelquefois une cause de mort subite, les insuffisances cardiaques, et même de cancer. Parce que n'oublions pas que ces aliments-là sont produits à la base avec des produits industriels.
Le docteur Aliou Mohamed Diallo livre les bonnes habitudes qui permettent de préserver la santé.
Il faut une alimentation saine et équilibrée, donc avec moins de graisse, moins de sucre, moins de sel, plus de protéines, plus de vitamines et d'oligo-éléments. Mais en plus de ça, il faudra lutter contre la sédentarité, contre l'obésité et le surpoids, lutter également contre le tabagisme et l'alcool par une activité physique régulière, éviter de grignoter entre les repas, ce qui favorise le surpoids et l'obésité également.
À Dakar, Sedina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'enquête actuelle des démocrates à la Chambre des représentants sur une éventuelle procédure de destitution contre le président américain Donald Trump ne fait pas débat qu'ici aux États-Unis. Au Togo, par exemple, certains étudiants fascinés par la politique américaine suivent de près ces développements. Pendant que les uns se mettent dans la peau des démocrates, les autres, sans pour autant se réclamer du camp républicain, mettent en garde contre le fait que M. Trump pourrait tirer avantage de cette procédure. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kylie Lawson.
À l'American Corner de l'Université de Lomé ce jour, un groupe d'étudiants est en plein débat. Le sujet de discussion, la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Samuel Anna analyse à sa manière la dite procédure.
C'est une procédure qui est en train d'expulser le président de telle manière qu'il ne puisse pas postuler pour le prochain mandat. Si cette stratégie a été mise en place, c'est parce qu'ils ont constaté qu'ils ont eu des problèmes diplomatiques et du coup, Donald Trump ne pourra pas les aider à pouvoir l'arranger. C'est pourquoi cette stratégie a été mise en place pour que le président soit enlevé.
Donald Trump n'a pas sa place à la tête d'une puissance comme les États-Unis, soutient Farida Essor Ourodoni.
Toutes les décisions que Trump et son gouvernement pris depuis 2007. Je crois qu'il y a plusieurs décisions qui nuisent, non seulement aux États-Unis, mais aussi au monde entier. Et tout le racisme, le sexisme et la misogynie qu'il prône. Donc, une personne comme ça ne devrait pas être à la tête de la première puissance au monde.
Pour l'étudiant Marcel Amenke, cette procédure est l'œuvre du camp démocrate pour ternir l'image de Donald Trump.
Le Parti démocrate a trouvé une opportunité d'encore décrédibiliser ce président. Je pense qu'ils essaient de juger le président alors que nous n'avons pas de claire évidence qu'il a vraiment commis ces actes. Ils ont peut-être peur que M. Donald Trump soit encore élu. Donc, ils essaient de le discréditer devant son électorat.
Un autre étudiant, Yehouza Ahmed, qui épouse la théorie avancée par Marcel, estime que la procédure pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump.
Si les démocrates agissent autrement pour le destituer, ils risquent aussi que le gars revienne dans son deuxième mandat pour continuer, parce qu'il va profiter de cela pour être élu pour le deuxième mandat.
Benjamin Coblet affirme ne guère être surpris par cette procédure, car selon lui, Donald Trump serait un président par défaut.
C'est un président qui n'était pas vraiment accueilli par la majorité de la population du monde qui ne s'attendait pas à voir Trump comme président. Avec son arrogance, il expose un abus de pouvoir.
Le président américain Donald Trump est visé par une procédure de destitution lancée par les démocrates qui l'accusent d'avoir abusé de son pouvoir en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.